Le carillonneur, deuxième partie, chapitre 5. La névrose de Barbe empira. Elle avait maigri, son teint était blême. Pour la moindre contrariété, un objet brisé, le départ d'une servante, une remarque faite, elle s'énervait aussitôt, s'emportait. La maison était sans cesse orageuse. On vivait dans l'attente d'un coup de tonnerre. Il y fallait, de la part de Yoris et de Godelive, une continuelle surveillance de soi, une patience sans limite et docile à son humeur, comme la moisson au vent. Pour Godelive, c'était facile. Tout enfant, elle fut préparée et se plia à la fougue intraitable de sa sœur. Sa douceur native demeurait égale, unie et sans pli, toujours semblable à elle-même. Paix d'une eau gelée que la bise déchaînée, pas plus que la brise, ne dérange et ne ride. Yoris se résignait moins à tant de caprices, de sautes de vent, de hasards contradictoires, et jamais la sécurité. De plus, l'énervement est contagieux. Lui-même, par moments, se trouvait à bout de contraintes et regimbait, se redressait dans sa fierté d'homme. Mais il n'en menait pas long. Barbe, habituée à ce que personne ne lui résistât, entrait vite dans une rage folle, l'apostrophait, s'avançait vers lui, agressive. Un jour, hors d'elle-même, ivre de fureur, elle cria une horrible menace, d'une voix rauque qui faisait mal à entendre. « Je te tuerai !» Yoris avait pitié. Laissé passer la crise, se sentant au fond de lui infiniment miséricordieux pour ce pauvre être, irresponsable sans doute, lui-même si lointain d'ailleurs, réfugié en lui, dans cet arrière-fond, cette dernière chambre de l'âme où personne n'entre. C'est là qu'il retrouvait Godelive, souriant en silence à son amour. Qu'importe le reste. Barbe, avec ses grandes secousses, demeurait brisée, chiffon de chair et de nerfs, voile tombée du mât. Elle gisait, un long temps, inerte et livide, dolente aussi, à cause du mal fourmillant dans tous ses membres. Des fils s'étiraient au long de ses jambes, se nouaient aux genoux, conduisaient leur écheveau à sa gorge qui s'en bouchait à l'étouffer. Elle s'en plaignait à Godelive. « J'ai mal, j'ai mal !» Et sa voix filait en chanterelle, devenait une voix fêlée, une petite voix qui mue, une voix d'enfant malade et qui crie à l'aide. Elle se recroquevillait sur elle-même, aurait bien voulu se blottir, se réchauffer contre quelqu'un. « J'ai si froid aussi !» Alors, Godelive, apitoyée, la dorlotait, l'entourait de châles, promenait ses mains sur elle, et leur contact l'apaisait, la languissait, comme d'un fluide invisible et calmant. Barbe, dès lors, se rendait compte, semblait confuse de ses excès. « Je ne pense pas ce que je dis. » Godelive allait aussitôt en aviser Yoris pour le consoler, le panser, le ramener, pour essayer un raccommodement qui aboutirait du moins à la paix, sinon au pardon. Mais il refusait d'un ton triste. « Elle m'a trop fait souffrir. Consciente ou non, elle m'a trop lapidé le cœur. » Godelive tentait d'agir du côté de sa sœur, risquait des gronderies douces. « Tu te fais mal, et tu fais mal aux autres. » Mais Barbe, mal pacifiée, se cabrait, recommençait ses plaintes et sa colère, se retournait contre Godelive. Elle prit en aversion sa sœur aussi, lui imaginant des griefs et des torts, trouvant une intention ou une inflexion blessante à toutes ses paroles. « Je voudrais mourir !» Et on la vit tout à coup ouvrir la fenêtre, comme si elle allait se précipiter dans le vide, sortir brusquement en posant à peine un chapeau sur sa tête, un manteau sur ses épaules, et se mettre à arpenter les quais d'un pas précipité vers les canaux et les étangs de la banlieue, avec l'air de vouloir se jeter à l'eau et de choisir un endroit. Yoris, prévenu, s'empressait derrière elle, devenu pâle lui-même, comme s'il allait défaillir, le cœur battant à coups d'horloge dans sa poitrine, angoissée, avec la peur du scandale, et aussi une douleur peu à peu née pour cette pauvre Barbe, qu'il croyait ne plus aimer, mais ne pouvait supporter d'imaginer morte, tachée de sang d'une chute ou des herbes aquatiques d'Ophélie. Malgré tout, il se ressouvenait des commencements, la revoyait sous le voile blanc de leurs noces, songeait à l'ancienne bouche trop rouge. Barbe tomba à des prostrations, des mélancolies sans fin qui facilitèrent la pitié. Ce fut la détente, la période d'abattement après celle de l'exaltation. Elle sembla sortir des ruines. On eût dit qu'elle avait longtemps marché dans la pluie, quelque chose de fané émanait d'elle. On songeait à un naufrage en la regardant, et qu'elle avait vu la mort. Elle semblait au regret d'en avoir réchappé, d'être assise dans sa maison. « Je vous gêne, » disait-elle parfois à Yoris. « Nous sommes malheureux, il vaut mieux que je meure. » Yoris tressaillait. Elle n'avait pourtant rien pu deviner de son amour pour Godelive, qui demeurait bien secret et clos au fond de lui. Mais est-ce que l'instinct n'est pas quelquefois visionnaire ? Yoris repoussait le propos qui lui faisait peur et qui avait touché une chose à laquelle il ne voulait pas penser. Au contraire, puisque Barbe semblait malade, il fallait la soulager, la guérir. Il manda un médecin après l'avoir au préalable renseigné. Le cas était clair, anémie et névrose, déclin d'un sang vieux, mal du siècle, qui sévit jusqu'en ces villes reculées. Chez Barbe, il était héréditaire. Comment y remédier ? Plus tard, par l'âge, il s'améliore. En attendant, il s'atténue par quelques cures d'eau, l'air de la montagne qui tonifie et pacifie. Justement, Barbe était liée avec des cousines qui habitaient une station thermale, petite ville d'Allemagne, où elle les visita naguère. Il ne lui déplut pas d'y retourner. Mais elle entendit s'en aller seule, sans personne, rompre ainsi un moment avec son existence, couper les liens qui l'attachaient au sien, perdre tout souvenir de son intérieur, où elle venait de passer des jours si noirs, entrer dans le voyage, comme dans une autre vie. N'était-ce pas une des formes de son état maladif que cette irritation contre ses proches et contre eux de préférence ? Elle ne voulut point d'eux et partit seule quelques jours après. En vain, Yoris avait offert de l'accompagner, et Godelive surtout de son côté, avec une insistance qui s'ingénie, louvoie, trouve des raisons spécieuses, promet de se faire menue, câline et si peu encombrante. C'est que Godelive craignait, s'épouvantait de rester seule avec Yoris. Barbe, en partant, laisserait entrer le danger. Tant qu'elle fut présente dans la maison, Godelive se sentait sauvegardée dans une si douce sécurité. Certes, elle n'avait pas pu se défendre tout à fait d'aimer Yoris, puisqu'elle l'aimait depuis toujours, et même de le lui laisser voir. Mais elle songeait sans trop de honte à ces petits bonheurs qu'il se donnait ou se cueillait, pour ainsi dire, à la dérobée, dès qu'il se trouvait seul et comme par hasard. Étreinte rapide, main qui s'attarde, lèvres si peu appuyées, tout cet amour à peine encore charnel et qui n'est que pour accoupler les âmes. Godelive consentait à ces baisers anodins, qui ne semblaient pas très différents des baisers d'une belle-sœur, et qu'elle aurait pu avouer sans le trouble intérieur qui lui en venait, le divin retentissement de tout son être, comme si une hostie, avec le visage de Yoris, descendait en elle. Et puis, n'était-ce pas une œuvre pie, un devoir de charité familiale et de pitié humaine, de donner à Yoris le réconfort d'un peu de tendresse, la bonne gourde de ses jeunes lèvres dans son foyer aride et en feu ? Non, elle n'avait point à rougir de cet amour dont elle osait parler à Dieu. Mais aujourd'hui que Barbe était partie, elle soupçonna obscurément que tout changeait. C'était fini, la sécurité, l'intimité innocente, les privautés vénielles, l'amour sans tâche qui aurait pu durer jusqu'au bout de leur vie. Ils allaient se trouver seuls, par conséquent, libres et tentés jusqu'au pire. Le soir, à table, en tête à tête pour le souper, une grande gêne fut entre eux. Godelive avait rougi en prenant place. Elle comprit qu'elle rougirait toujours désormais en présence de Yoris. Celui-ci souriait, exultait, étonné et troublé. Est-ce que le hasard avait voulu, pour un moment du moins, rétablir leur destinée? Dans cette maison qui est leur, ils se trouvaient à deux, bien à deux, sous la lampe, comme deux époux heureux. Cela aurait pu être. Cela était pour l'instant. Soirée d'intimité, quasi conjugale. Yoris s'épancha, raconta son âme. Godelive écoutait, acquiesçait. Elle avait pris son carreau de dentelière, joua avec les fuseaux, distraite souvent, mais rassurée par le jeu des fils auquel longtemps elle occupa ses mains dans la crainte que Yoris les eût prises. Chapitre 6. L'amour éclata en eux comme un printemps. Il suffit d'un jour de soleil pour rosir tous les péchés, couvrir de feuilles les vieux murs. Leurs préjugés aussi, leurs craintes, leurs scrupules, disparurent instantanément sous une explosion de fleurs, cette montée odorante d'un renouveau. Ils eurent conscience qu'il n'y fallait point résister. C'était enfin la saison due, l'avènement inévitable. C'était le cours régulier de la nature, leur volonté triomphante après tant d'épreuves et d'attentes. Ils furent le couple longtemps fiancé, séparé par le temps et la mer, qui se mérite et se rejoint. Et il ne fallait point en bénir le hasard. Une manigance plus mystérieuse avait tout agencé. Cette névrose grandissante de Barbe, la désunion du ménage, ce départ solitaire qui les laissait à deux en proie à eux-mêmes. En réalité, la loi de leur vie reprenait son sens, recommençait à couler selon sa pente après avoir un moment disparu parmi des cailloux et sous terre. Tout ce temps où ils n'avaient pas pu s'y mirer, ce fut comme s'ils s'étaient perdus. Maintenant, ils retrouvaient le visage l'un de l'autre au fil de leur vie. Il semblait que tout le reste fût si court, si inconsistant, si peu réel et déjà tout enfui. Il n'y avait pas deux jours écoulés depuis le départ de Barbe et leur intimité à deux dans la maison qu'ils eurent l'impression d'avoir toujours vécu ainsi. Vie conjugale exemplaire, couple frémissant jusqu'au bout de la première extase. Entente jumelle et qu'aucune divergence jamais ne diminue. Yoris demeurait émerveillé de la douceur de Godelive. Une humeur angélique, toujours égale à elle-même, comme si son âme était sous verre et que rien, ni la secousse d'aucun air, ni aucune parole, ni aucun vent, ni aucune poussière de la vie, ne pouvait l'atteindre et l'influencer. Ah! La sécurité d'une telle présence à son foyer et la bonne lampe immuable qu'un tel amour. Yoris comparait, se souvenait encore par minutes de la flamme folle qu'était Barbe, qui lui fut toujours brûlure ou demi-nuit, comme il porta la peine de s'être trompé, d'avoir écouté les mauvais conseils de la cloche, d'être si peu clairvoyant en redescendant de la tour. Il jugeait maintenant, dans le cas où il aurait choisi Godelive, quelle existence enchantée eût été la sienne. Et cela aurait pu être, cela aurait été, si Barbe, intervenant, n'avait d'un coup, d'un baiser irrémédiable, violenté et ruiné tout leur avenir. Mais aujourd'hui, l'erreur se réparait d'elle-même, les circonstances devenaient complices. Dieu lui-même semblait les tenter. C'était l'heure de rétablir leur destinée. Durant tout le jour, ils jouirent délicieusement de l'illusion que rien n'avait été de ce qui fut. À table, en tête à tête, pas une fois ils n'eurent l'impression d'une place vide, et à aucun moment l'absente ne fut entre eux. Le soir seulement, à l'approche de l'heure du coucher, Yoris se troubla, s'enfiévra. Il tomba à des silences où il évoquait, en lui-même, Godelive dans sa chambre, parmi la blancheur des linges, déjà intimes. Il se la figurait, en s'aidant des aspects qu'elle eut certains jours de naguère, pas coiffée encore et en robe d'intérieur, négligée du matin dont elle ne soupçonnait pas l'excitation et la secrète collaboration pour les images futures. Yoris se la représentait rose sur l'oreiller, avec tout autour le ruisseau blond de ses cheveux, des méandres jouant autour de la tête. Il aurait tant voulu la voir dormir. La soirée se prolongeait. Aucun n'osait donner le signal de se quitter. C'était presque anormal de se quitter. Ils avaient passé la journée à deux, rien qu'à deux, couple extasié, parfaits amants qui se ressemblent, pensent la même chose sans se le dire, vibrent un tel unisson qu'ils se testent ensemble pour laisser leurs âmes correspondre. Et cela durait depuis longtemps, depuis toujours, depuis les lointaines années où leurs âmes s'étaient fiancées. Un soir, Yoris fut plus ému, plus tendre. Il avait suivi Godelive dans le corridor, dans les escaliers, tandis qu'elle s'acheminait vers sa chambre. Au seuil, il la termoya le bonsoir, lui prit les mains, appuya son visage au sien. Il évoquait leur passé. Godelive l'avait aimé tout de suite, et lui, au fond, n'aima jamais qu'elle. Ce fut la faute de la destinée. Mais la destinée aujourd'hui cède, les rend l'un à l'autre. Vont-ils maintenant lutter contre eux-mêmes ? Godelive, si pure qu'elle fût, n'était pas innocente. Elle devina, comprit la tendre supplique de Yoris, toute frémissante aussi de ses paroles, de ses caresses, de son émoi, des feux redevenus juvéniles de son visage. En même temps, elle s'alarma du grand mystère qu'elle ignorait, intercéda d'une voix déjà changée, « Qu'est-ce qui manque à notre bonheur ?» Yoris mangeait les mots sur ses lèvres. Godelive murmura encore, « Ça aurait été si bon de continuer ainsi. » Yoris lui dit, « Qui le saura ?»« Mais Dieu !» répondit brusquement Godelive. Au même moment, elle se dégagea, effrayée, soudain reconquise à elle-même. « Dieu !» Ce mot avait sonné dans son désarroi, dans le commencement de sa défaite, comme un unique coup de cloche, plus tragique d'être unique. Son visage prit un aspect solennel, se transfigura, éclaira l'ombre. Dans ses yeux, une certitude se leva comme une aube. Elle regarda Yoris, bien en face, avec sérénité. Elle lui prit les mains, sans plus rien de sensuel, comme si elle touchait seulement des fleurs. Et elle lui dit d'une voix qui avait l'air de prier tout haut, « Oui, nous devons nous appartenir, mais pas ainsi. Nous irons d'abord à l'église. Je sens mon amour si avouable que je veux le porter devant Dieu, le faire bénir par Dieu. Dieu nous mariera, veux-tu ? Demain soir, à la paroisse. Après cela, je ne serai plus moi. Je serai tienne, ta femme. » Le jour suivant, vers 6 heures, Godelive s'acheminait vers la cathédrale de Saint-Sauveur. Yoris avait préféré cette église-ci, la jugeant plus belle et voulant de la beauté autour de leur amour. Elle entra par une porte latérale et alla l'attendre, comme il était convenu, dans une des chapelles de l'abside. Sans savoir pourquoi, elle avait peur. Qui aurait deviné ? Qui les aurait soupçonnés en les voyant là ensemble ? N'est-elle pas sa belle-sœur, avec laquelle il n'y a rien d'anormal à sortir, entrer dans une église, prier un peu ? Pourtant, elle avait épié, avec une petite angoisse, les quelques fidèles épars dans les nefs. C'étaient des femmes du peuple, humbles servantes de Dieu, presque ensevelies dans leur vaste mante, dont le capuchon s'évase en forme de bénitier. Elles s'identifiaient de plus en plus avec l'ombre commençante. Seuls, les vitraux irradiaient encore. Les rosaces faisaient la roue. C'étaient des pans bleus d'orgueil immobile. Un vaste silence. On n'entendait que le crépitement de quelques bougies, le craquement intermittent du bois des confessionnaux ou des stalles, cette vague respiration des choses endormies. La polychromie ardente des murs et des colonnes se décolorait. Un crêpe invisible descendait sur tout. Une odeur d'encens fané, de gloire moisie, de poussière des siècles régnait. Les visages des vieux tableaux mouraient. On pensait aux ossements des reliquaires. Godelive attendait, un peu en émoi et en mélancolie. Elle s'était agenouillée sur une chaise, s'enveloppa d'un signe de croix, chercha dans son paroissien la messe pour la bénédiction du mariage. Quand elle l'eut trouvée, elle se signa de nouveau et commença à lire l'introïte, les yeux sur la page, épelant les mots avec un lent remuement des lèvres, pour éviter toute distraction qui aurait été sacrilège. Malgré cela, elle suivait mal le texte, inquiète et troublée, se relevant à tout instant, regardant derrière elle et jusqu'au fond de l'église, au moindre bruit qui retentissait sur les dalles. Alors, elle joignit les mains et, les yeux vers l'autel, elle pria ardemment l'agneau pascal, tout en or, chargé d'une croix, qui est figurée sur la porte tournante du tabernacle. « Oh, mon Dieu, dites-moi que ce n'est pas trop vous offenser et que vous me pardonnez. J'ai tant souffert, mon Dieu. Et puis, vous n'avez pas défendu d'aimer. Or, c'est lui que j'aime, que j'ai toujours aimé, à qui je suis fiancée depuis toujours. » C'est lui que j'ai choisi devant vous, mon Dieu, que je choisis pour mon seul et mon éternel époux. S'il n'est pas mon époux devant les hommes, il sera mon époux devant vous. Oh, mon Dieu, dites que vous me pardonnez. Dites que vous me bénissez. Dites que vous allez nous unir. Oh, mon Dieu, que vous allez nous marier en recevant mon serment et le sien. » Brusquement, elle se retourna. Un bruit de pas venait vers elle. Quelqu'un s'avançait dans le crépuscule accru, qui devait être Yoris. Elle le voyait avec son âme. Alors, elle eut un frisson et s'apparut à elle-même devenue toute pâle. Son sang déserta le visage, reflua au cœur en une marée rouge et chaude. Elle sentit dans sa poitrine une tiédeur, un effleurement comme d'une caresse de bonheur, une rose soudain ouverte et qui mettait là un temps de mai. L'ombre humaine grandit, entra dans l'ambulatoire, fut bientôt derrière elle, murmurant « Godelive !» très doucement au-dessus de son épaule. « Yoris, c'est toi ?» fit-elle, encore un peu inquiète, mal assurée dans son bonheur. Puis elle lui indiqua une chaise qu'elle avait préparée à côté de la sienne. Et sans plus le regarder, sans rien dire, elle rouvrit son paroissien et se remit à lire la messe du mariage. Yoris la regarda, gagnée par ce mysticisme angélique où elle s'exaltait, transfigurait la faute prochaine. Elle s'avouait devant Dieu, sans remords, avec joie et certitude, comme si elle l'avait vu, du fond de ces mystérieux paradis, acquiesçant et bénissant. Ce n'était pas, pour elle, un simulacre, de quoi se leurrer ou s'absoudre. Elle célébrait ses justes noces. Peut-être qu'elle avait raison au point de vue de l'éternité. Yoris se sentit inondé d'une grande joie. Il s'attendrit de voir qu'elle avait tenue à être bien mise, agrafa de secrets bijoux, tout un luxe, caché sous un long manteau, mais qu'elle lui dévoilerait sans doute au retour. Après un long temps de prière, il la vit qui ôtait ses gants. Il regarda, intrigué. Qu'allait-elle faire? Alors, elle sortit de sa poche un écrin, en retira des alliances, deux anneaux d'or massif. Religieusement, elle en mit un à son doigt. Puis, attirant à elle la main de Joris, elle lui glissa l'autre. Et, gardant cette main dans la sienne, en une étreinte chaste, comme si un prêtre l'avait couvée de son étole, elle lui demanda avec une voix de la plus confiante tendresse « Tu m'aimeras toujours, n'est-ce pas ?» Leurs alliances se touchèrent, se baisèrent, anneaux rivés d'une chaîne mystique que Dieu venait de bénir et qui les unissait à jamais dans un amour indissoluble et légitime. Godelive recommença à prier. Elle n'avait plus à défendre leur amour contre le ciel. L'air en extase maintenant et de parler avec Dieu de son bonheur. Parmi les gestes et l'émoi de cet échange d'anneaux, elle n'avait pas pris garde à ses gants qu'elle venait de retirer. Au moment de partir, elle les chercha. Ils étaient tombés à terre. Joris se baissa, les ramassa. Alors il remarqua que leur chaise reposait sur une de ces dalles funéraires dont la vieille cathédrale de Saint-Sauveur, en maints endroits, est pavée. Il y avait là, dans cette chapelle, toute une série de tombes plates en laiton et en pierre, quelques-unes avec des effigies noircies, celles du Seigneur, celles de la Dame, représentées dans les plis immobiles du linceul, avec des grappes de raisin et des attributs évangéliques tout autour. Godelive venait de le découvrir aussi. Une pierre tombale était sous leurs pieds. On y lisait les dates d'un trépas très ancien, les lettres espacées, incomplètes, d'un nom qui, à son tour, périssait sur la dalle, s'y décomposait, retournait au néant. Funèbres emblèmes! Comment ne s'en était-elle pas aperçue en prenant place ici? Leur amour était né sur la mort. Pourtant, l'impression fâcheuse se dissipa. Leur bonheur était de ceux que même la mort n'assombrit pas, comme le bonheur des amants, le soir, en été, dans les kermesses du village, qui s'écartent de la danse et vont, pour s'aimer, pour se prendre les mains et les lèvres, s'adosser au mur du cimetière. Attirance de l'amour et de la mort. La passion de Joris et de Godelive n'en fut que plus grave. Et, ce soir-là, en se possédant, ils crurent mourir un peu l'un de l'autre. Chapitre 7. Dans quel recul immédiat l'amour nous jette? On est à deux, comme dans une île enchantée, où plus rien de l'ancien continent ne préoccupe. On se suffit à soi-même, on rentre dans la vie primitive. Il n'y a plus d'ambition, d'art, d'intérêt, mais une oisiveté triomphante où l'âme, vacante de tout, s'écoute enfin elle-même. Godelive se sentit délicieusement heureuse. Nul remords n'était encore né. Elle eut l'impression d'être dans l'amour comme en état de grâce, et la surabondance de sa joie intérieure lui rappela le temps de sa première communion, où, tous les matins suivants, elle continuait aussi à sentir un Dieu vivant en elle. À présent, c'était comme sa première communion d'amour. Joris, lui, s'emplit des fraîcheurs et des douceurs de la convalescence. Son ancienne existence, les jours noirs, les colères de barbe, la rancune du bonheur manqué, tout avait disparu, si vague déjà. C'était comme arriver à un autre ou dans une autre vie. Il s'étonna de s'être tant passionné, naguère, pour des buts qui lui apparaissaient vains. Qu'est-ce que cet amour pour la ville, sinon une passion factice et glacée dont il leurra sa solitude? Ce fut un amour d'hypogée. Et quel danger d'aimer la mort, quand la vie est là, toute simple et si belle. L'amour est le seul bien. Joris l'avait longtemps méconnu. Il s'était créé une autre raison de vivre et plana durant des années dans le rêve, c'est-à-dire dans le mensonge. Il comprit maintenant que ce rêve de la beauté de Bruges était illusoire et décevant. Même réalisé, il ne lui donnerait aucun bonheur réel et lui laisserait le sentiment des années perdues, de sa vie sacrifiée. Il faut jouir de l'heure, se créer des joies immédiates, mêler son être de chair au soleil, au vent, aux fleurs, et ne pas toujours introniser un dieu en soi. Ioris vécut désœuvré et heureux. Son amour lui suffisait. Godelive occupa seul ses journées. Il abandonna ses travaux en train. Des façades languirent, à demi restaurées, attendant son bon vouloir pour dépouiller leurs échafaudages, quitter ses linges et ses langes, et surgir guéris du mal d'être vieille. Ses projets furent négligés. Même cette restauration de l'antique bâtiment de l'Académie, dont il avait commencé les plans, méditant d'en faire une reconstitution aux grandes lignes sévères, qui eût été pour lui un nouveau titre de gloire. La gloire! La chimérique du prix! Et comment peut-on, pour ces promesses posthumes, s'empêcher de vivre? Ioris s'abandonna au hasard des journées. Celles-ci passaient, rapides et enchantées. Est-ce que les nouveaux amants ne sont pas très occupés? Ils ont une vie intérieure active et ils se créent entre eux des rapports compliqués, subtils, minutieux. Ils veulent ne rien ignorer l'un de l'autre, se renseigner réciproquement à toute minute, dire la fleur de chaque pensée qui s'ouvre en eux, l'ombre du moindre nuage qui y passe. Chacun vit à la fois dans deux âmes. Et ils ont tant à se conter. Toute leur histoire, celle de leur jour et de leur nuit, en remontant jusqu'à la petite enfance, ce qu'ils ont vu, senti, désiré, rêvé, pleuré, aimé. Et aussi leurs songes et leurs cauchemars, tout sans restriction, en détail et avec les nuances, car ils sont jaloux du plus lointain passé et du plus minime secret. Nudité sacrée de l'amour. L'âme aussi ôte ses voiles un à un et se montre toute. Ioris ne rencontra chez Godelive que de la douceur après de la douceur. Créature adorable qui toujours acquiesce, consent, accompagne. Et avec quelle fine clarté d'intelligence! Ioris interrogeait Godelive. « Ainsi, tu m'aimas la première ?»« Oui, tout de suite, dès que tu vins dans la demeure de mon père. »« Pourquoi ne l'as-tu pas dit ?»« Pourquoi ne l'as-tu pas vu ?» Ils sentaient tous deux que ce fut leur destinée de ne pas s'atteindre tout de suite. Ioris, lui, songeait aussi au beffroi, à la cloche de Luxure, qui le tenta du désir de barbe, à toute cette mystérieuse conjuration de la tour, d'où il redescendait, chaque fois, désorienté, trébuchant et mal clairvoyant parmi les hommes. Il dit, comme se parlant à lui-même, mélancolique, « Je suis si souvent aveugle dans la vie. » Puis il demanda à Godelive, Pourquoi m'as-tu aimé ? Parce que tu avais l'air triste. » Elle se mit alors à lui raconter une histoire de son enfance, un petit amour puéril de la pension qui lui avait pris aussi par apitoiement. Elle était chez les Ursulines. Il y avait un prêtre qui faisait le cours de religion. Il n'était plus jeune et pas beau, avec son nez large, ses joues plantées d'un poil dur et noir. Mais une tristesse noyait ses yeux. Il avait l'air de porter en lui son cœur comme un grand tombeau. Les pensionnaires le trouvaient laid et se moquaient de lui. Elle, à le voir ainsi antipathique à toutes, prit parti pour lui dans son âme, pria à son intention et, pour le dédommager, se montra exemplaire à ses leçons. Il était son confesseur, elle alla se confesser souvent. Or, il l'absolvait avec de tendres paroles, de si doux noms. « Ma chère amie, ma chère petite sœur !» Les jours où elle ne le voyait pas lui parurent vides et longs. Quand il arrivait en classe ou à l'église, elle se sentait devenir rouge, puis toute pâle. Le soir, au dortoir, l'hiver, elle pensait encore à lui. Et sur les vitres gelées, écrivait son nom qui avait l'air d'y naître dans de la dentelle. N'était-ce pas déjà l'amour ? Dans le même temps, eut lieu la retraite annuelle, les sermons terrifiants sur le péché et l'enfer. Elle ne douta pas que c'était pour elle que Dieu s'inquiétait, envoyait le prédicateur aux peintures de soufre et de feu. Car elle se trouvait en état de péché mortel, avait glissé au sacrilège d'aimer un prêtre. Yoris écoutait la curieuse histoire, naïve comme une légende. Il revoyait Godelive enfant, avec ses cheveux de miel en natte sur le dos, l'air d'une petite victime, dupe de sa douceur et de son besoin de consoler, s'acheminant à quel dénouement ? J'étais terrifiée, continua-t-elle. Et dès le lendemain, j'allais m'agenouiller au confessionnal de celui que j'aimais encore. Car je l'aimais, malgré les anathèmes de la retraite, et malgré Dieu, même à cette minute suprême où il fallait m'en accuser. Père, j'ai un grand péché sur la conscience que je n'ose pas vous dire. Pourquoi ? Fit-il. À moi, vous pouvez tout avouer. Non ! « C'est surtout à vous que je n'oserai pas. »« Dites, il le faut, » reprit-il. « Vous ne voulez pas contrister le cœur de Dieu, n'est-ce pas ? Ni me contrister moi-même. » Alors je n'y tins plus. Il avait une telle mélancolie dans la voix, comme le résumé d'anciennes peines revenues. Toute rougissante, je lui avouai très vite. « Mon père, c'est que j'aime trop. »
« Mais Dieu n'a pas défendu d'aimer. » « Qui aimez-vous trop ? Et comment savez-vous que vous aimez trop ?»
Je m'étais tue, je n'osais plus. Alors il insista habilement, gronda, s'affligea surtout. Et seule sa tristesse m'ébranlait, commençait à me décider. Tout à coup, comme arrachant un grand poids de mon cœur que je n'avais pas la force de porter, je lui chuchotai à voix très basse et rapide. « C'est vous que j'aime trop !» Le prêtre ne sourit pas, demeura une minute silencieux, et comme je le regardais, pleine d'angoisse, je vis sur son rude visage un attendrissement, un chagrin infini. Ses yeux regardaient ailleurs, très loin, dans son passé sans doute, où il avait connu l'amour dont mon naïf enfantillage lui avait rappelé le fantôme. On veut oublier. Et une voix d'enfant qui passe remémore. Il me congédia vite, en me disant de venir moins souvent à confesse. Godelive conclut. « Tu vois, il n'y a pas de quoi être jaloux, c'est mon seul amour avant toi. Toi aussi je t'ai aimé parce que tu avais l'air triste, mais tu es beau, toi, tu seras grand. » Yoris souriait, s'attendrissait de la douce histoire et de cette vocation de consolatrice, toute précoce chez Godelive. Pour lui, elle fit plus que le consoler. Elle lui abolit toute peine, tout souvenir amer, tout désenchantement. Elle lui rendit l'amour de la vie. Il n'eut plus à regretter qu'à peine la méprise de leurs deux cœurs qui si longtemps se cherchèrent et souffrirent d'être seuls. Ils s'étaient trouvés et l'avenir s'allongeait devant eux. Tout le passé avait disparu. Dans l'enivrement premier, ils allèrent jusqu'à oublier que l'absence de barbe serait brève et qu'elle devait revenir, s'interposer entre eux, mettre sur chacun une ombre froide comme celle de toute une tour. Leur bonheur allait à l'infini. Ils vivaient comme dans l'éternité, une éternité où ils ne seraient qu'à deux. Cela les mena même à des imprudences. En cette ville provinciale où tout est épié, à des promenades isolées ou tardives, que vite on commenta. Eux ne soupçonnaient rien. Le soir, ils aimaient se rendre à Meanwater, le doux étang qui somnole dans la banlieue verte, contigu à l'enclos du béguinage.
N'est-ce pas le lac d'amour dont la croyance populaire veut que l'eau rende fou d'amour et fasse aimer jusqu'à la mort? Pourtant, nulle sorcière n'y vida des filtres. Aucune contagion de démence n'émana des calmes berges. Quand Yoris et Godelive arrivaient, à la nuit commençante, à peine un vent léger faisait balbutier les peupliers du bord, mais en plainte, sans parole. Seuls les échos de prières, des ricochets de cloches sur les pignons et sur les toits, aboutissent là. Alors, pourquoi cette eau rend-elle fou d'amour? Pourquoi fait-elle aimer d'une passion immuable? Elle surtout en qui ne se mirent que des reflets versatiles, les nuages du nord toujours en marche. Yoris trébuchait de trop de joie. Godelive souriait aux fines étoiles, à l'eau, aux nénuphars qui y abondent et qu'elle aurait bien voulu emporter. Ils allaient, presque enlacés, extasiés de la paix du site et de la nuit, sans songer que quelques passants eût pu les voir, tout soupçonner, divulguer leur coupable amour. Ils ne songeaient plus à Barbe, comme s'ils étaient tout à fait maîtres d'eux-mêmes et du destin. Est-ce que déjà le sortilège du Minwater opérait, les affolant jusqu'à l'imprudence inutile et la démence d'aimer qui se rit de l'univers? Chapitre 8. Yoris avait fait ce rêve d'emmener Godelive dans la tour. C'est le penchant de tous les amants de se montrer les lieux où ils vivent. Il faut qu'ils n'ignorent rien l'un de l'autre. Et la présence chère va sacrer le décor. Certes, Godelive accepta avec joie le projet. Non pas tant pour le plaisir de visiter le mystérieux beffroi, ni même pour entendre de plus près le jeu du carillon, voir Yoris s'installer au clavier, faire éclore ces nostalgiques fleurs de son dont elle n'avait connu jusqu'ici que l'effeuillement sur elle et sur la ville. C'était surtout parce qu'elle entrerait ainsi un peu plus encore dans la vie de Yoris, verrait cette chambre de verre dont il parlait souvent, qu'il appelait la chambre la plus intime de sa vie, et où il avait dû tant penser, regretter, espérer, souffrir sans doute. Il y aurait là, dans l'air enclos, quelque chose de lui qu'elle ne savait pas encore. Pourtant, elle était tourmentée d'une inquiétude. Si on me voyait ? Yoris lui persuada qu'il était facile d'entrer sans être aperçu. D'ailleurs, il n'y aurait rien d'étrange à ce qu'il lui eût pris la fantaisie de visiter le beffroi et de l'accompagner. Ils montèrent ensemble. Ce fut tout de suite un grand émoi pour Godelive dans ces opaques ténèbres, cette fraîcheur de crypte. Il lui sembla qu'il partait mourir à deux. À cause de l'escalier très tournant, elle se buta d'abord contre les parois, faillit trébucher. Yoris lui mit en main la corde de l'escalier, un câble rude et solide, servant de rampe, qui la guida. Elle tirait comme sur une ancre, avec l'espoir d'atterrir bientôt là-haut, dans de la lumière. L'ascension fut longue. Ils traversèrent les larges paliers où s'ouvrent des salles vides, les greniers du silence. Puis il fallut repartir pour une nouvelle étape obscure. Godelive n'osait pas regarder, ayant peur de tomber, d'être frôlée par des chauves-souris dont elle entendait les vols mous se déplier et se replier. Elle se sentait dans un cauchemar où les couleurs s'aigrissent, où les formes et les sons correspondent et s'altèrent. Yoris lui parlait, essayait de la rassurer, plaisantait pour l'enhardir. Godelive répondait et marchait comme une somnambule. Elle s'effraya surtout de ne plus voir Yoris, identifiée avec l'ombre, et de n'avoir plus conscience d'elle-même, de s'être comme perdue. Il n'y avait plus que leurs deux voix qui survivaient, se cherchaient à tâtons. Godelive vit passer, comme aux lueurs d'un orage dans la nuit, des portes mystérieuses, des charpentes aussi tragiques que des gibets, des cloches surplombant, la cloche du triomphe surtout, solitaire dans son grand dortoir, robe de bronze presque à ras du plancher, froc noir d'un moine damné. Il montait toujours, captif des marches et de la tour. C'était comme un préau en hauteur, une prison debout. Godelive n'avait jamais eu si peur. Vraiment une terreur panique, un effroi physique et qu'elle ne pouvait dominer. Quand viendrait la délivrance? Bientôt, une clarté naquit tout en haut. La voix de Yoris, devançant Godelive, parla dans plus de lumière. Alors, elle sentit toute une aube éclater sur sa tête. En même temps, un grand vent souffla, balaya sur son visage l'obscurité. Il venait d'aboutir à la plateforme, dans la chambre de verre, dont les baies vitrées ouvrent sur le paysage circulaire de la ville, l'immense campagne verte des Flandres, la mer du Nord, qui, tout au bout, miroite. Dans un coin s'offrait le clavier du carillon, ivoire jauni, clavecin qui attend. Godelive aussitôt s'étonna, s'émerveilla. « C'est ici que tu joues ?»«
Oui, tout à l'heure tu entendras. » »«
Je suis contente maintenant d'être venue, » continua-t-elle. « C'est affreux cet escalier sans fin, mais ici c'est beau et c'est bon. »
Elle voulut regarder aux horizons. Yoris l'attira contre lui, l'embrassa.
« J'aime de te voir ici. D'ailleurs, » ajouta-t-il, « tu y étais déjà un peu venu. Tu te rappelles ta phrase au commencement de notre amour ?»« Si Dieu avait voulu. » La petite phrase qui décida de tout. Le lendemain, c'était jour de carillon. En montant, il me sembla que ta petite phrase montait aussi, me précédait sur les marches, courait, revenait. Depuis lors, je n'ai plus été seule. La petite phrase, qui était ta voix, a vécu ici, près de moi.
« Chère adorée, » fit Godelive, et elle lui entoura le cou de ses bras. Elle ajouta,
« C'est ici aussi que tu as souffert. »
« Tant souffert, si tu savais, » répondit Joris.
« Ma vie a été comme l'ascension noire que nous venons de faire, mais qui toujours s'acheva dans de la lumière. » C'est la tour qui m'a sauvé. »
Il raconta alors comment il se réconfortait et s'exaltait en se répétant à lui-même « au-dessus de la vie », comme s'il s'évadait, quittait ses peines, les dominait vraiment, de si haut qu'elles cessaient d'être visibles et par conséquent d'exister.
« Vois comme tout est petit là-bas !»
Et il montra à Godelive la vie éparse. La ville reculée, les belles campagnes en tapisserie. Il lui désigna le Minwater, le site cher à leur promenade du soir, qui apparaissait si exigu, si rectiligne. Ce lac était comme un miroir de pauvre, un humble reposoir, avec tous ses nénuphars en ex-voto.
Quoi, c'était là? L'amour tient si peu de place?
Il lui indiqua aussi, presque en face d'eux, leur vieille maison du Dyfer, noircie et blasonnée derrière le rideau des arbres du quai. Elle était toute réduite, allongeant devant elle une ombre raccourcie, maigre et tourmentée comme un bijou de fer. Pourtant, les détails subsistaient. Ils comptèrent les fenêtres, soudain troublées, se regardant, les yeux incendiés, les lèvres prêtes. Ils venaient de s'arrêter ensemble, à la croisée de la chambre inoubliable. Par cette communion permanente des amants, ils avaient tous deux, à la même minute, pensé la même chose. Aussitôt, tous les souvenirs montèrent à la fois, d'en bas jusqu'à eux. Les vitres de la chambre nuptiale étincelèrent, transparentes et complices. Ce fut l'évocation brûlante de leur première nuit, de leur premier baiser. Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre, et il sembla à Godelive que la ville reculait, diminuait encore, cessait d'être, tandis que, à deux, enlacés, ils montaient plus haut, n'étaient plus dans la tour, se fondaient sous des caresses de vent et de nuées,
touchait le ciel. Cependant, l'heure du carillon était venue. Yoris s'installa devant le clavier. Godelive écouta. D'abord déçu. Rien qu'un concert aigu et strident qui n'apparaissait si doux dans les rues de la ville qu'à cause de la distance. C'est le recul qui fait la nostalgie. Les cloches au-dessus s'égosillèrent, maîtrises de village, chantres solfiant au hasard. Pourtant, Yoris faisait de son mieux, s'exaltait en l'honneur de Godelive. Les basses intervinrent dans les vieux lieds flamands qu'il jouait, mieux que les sopranies des clochettes qui ne s'angélisent que dans l'éloignement. Les grandes cloches chantèrent en noble mélopée, en bruissement d'orgue et de forêt qui entraînèrent Godelive. Elle se donna à ce vaste chant que Yoris créait pour elle et qui était comme le ruissellement de lui-même. Toute la tour chanta l'amour. Quelques rares passants sur les places, quelques habitants oisifs dans leur demeure, firent seuls attention à cette musique rajeunie, à ces fleurs de son qui tombaient comme plus fraîches sur les toits et dans les rues. Quel printemps imprévu fleurissait là-haut! Qu'est-ce qu'elles avaient, les vieilles cloches, pour chanter plus vite et comme si une rougeur de fièvre fardait leur bronze noir! Quand Yoris eut fini, il entraîna Godelive vers le petit escalier qui conduit à la plateforme supérieure. Quelques marches encore à gravir. Ils montèrent plus haut. Godelive vit alors les dortoirs des cloches. Toutes les cloches alignées avec leurs inscriptions, leurs dates, leurs armoiries coulées dans le métal. Et les patines diverses du temps. Les tons d'eau forte, les oxydations étranges, la rouille comme un clair-obscur de Rembrandt. Les unes vibraient encore, toutes frémissantes d'avoir chanté. Une grande cloche surtout attira Godelive. Elle était plus haute qu'elle-même et suspendue à de massifs madriers. Toute une ornementation en relief la brodait. Godelive voulut s'approcher. Yoris vivement la dissuada, l'entraîna. « Non, ne va pas là !» Sa voix avait tremblé d'un subit émoi. C'était la cloche affreuse, la cloche de luxure, avec tant de corps pâmés et de seins grappillés, le vase plein de péchés, le ciboire offert de l'enfer. Il ne fallait pas que Godelive en communiât. Ses yeux étaient trop purs pour contempler cette immobile débauche. Et puis, la cloche de luxure fut la cloche de barbe. Les voluptés de cette robe de bronze furent les voluptés de la robe de barbe. C'est cette cloche qui le tenta, fut de connivence avec barbe, causa tout le malheur. Il ne faut pas maintenant que Godelive en approche. Yoris l'emmena, la conduisit vers une autre cloche, celle qui sonne l'heure, car le grincement des tiges, actionnant les battants, l'avait averti. Au bout d'un instant, le vaste marteau se releva, puis s'abattit sur le métal sonore. On aurait dit un coup de crosse frappant le silence. Toute l'heure sonna, épiscopale. Yoris et Godelive écoutèrent, devenus graves. C'était l'heure qui s'accomplissait, irrémédiable. Une heure qu'ils ne pourraient jamais oublier, ni recommencer. La plus belle heure de leur vie. L'heure culminante de leur amour monte aussi haut que la tour. Aussi, en se retrouvant pour le retour parmi les marches rapides, où déjà la crainte de l'avenir revenait, ils eurent bien la conscience que c'est du sommet de leur amour qu'ils redescendaient.